Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Brachot, page 8, Daf Het. Bonne écoute et bon limoud.
Maïdirtiv, quelle est l'explication de ce verset? Va'ani tefilati lecha Hashem et Ratzon. Quant à moi, ma prière est à toi Hashem au moment propice. Et mata et Ratzon, quand est-ce considéré un moment propice? Au moment où l'assemblée prie. Donc de là, nous voyons qu'il est très important de prier avec l'assemblée. Et si l'on ne peut pas prier avec l'assemblée, au moins prier au moment où l'assemblée prie. Rabbi Yossi bar Chanina amar me'achar. Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina nous dit, nous l'apprenons d'ici. Ko amar Hashem, ainsi a dit Hashem, be'et raton aniticha. Un moment propice, je t'ai répondu. Et le moment propice, c'est au moment où l'assemblée prie. Rabbi Acha ben Rabbi Chanina amar me'achar. Rabbi Acha, fils de Rabbi Chanina, nous dit, nous l'apprenons d'ici. En kel kabir velo imas. Voici, Dieu ne méprise point les multitudes. Uktiv, et il est écrit, Pada b'shalom nafshi, mikerav li, ki berabi mayu imadi. Il a racheté mon âme en paix des luttes contre moi, grâce aux multitudes qui étaient avec moi. Donc nous voyons que le moment propice pour prier, c'est le moment où il y a des multitudes. C'est-à-dire au moment où l'assemblée prie. Donc c'est sûr que celui, quelqu'un qui peut se trouver avec l'assemblée, alors c'est le mieux. Mais celui qui ne peut pas se trouver avec l'assemblée, alors il doit au moins prier à l'heure où l'assemblée prie. Tania Nehemiah, nous avons appris aussi comme cela dans une brayta. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan nous dit, Minayin shena kadosh baruch hu moed bitfilatan shel rabim. D'où savons-nous qu'un kadosh baruch hu ne méprise pas les prières de l'assemblée? Chez Nehemiah, comme il est dit, En kel kabir velo imas. Voici, Dieu ne méprise point les multitudes. Uktiv, il est écrit dans un autre verset, Pada b'shalom nafshi mikerav li v'gomer. Il a sauvé mon âme en paix des luttes contre moi, etc. C'est-à-dire le verset qui a été ramené plus haut. Amar HaKadosh Baruch Hu. Alors HaKadosh Baruch Hu nous dit, Kol ha'osek b'Torah b'gmilut chassadim, quiconque qui s'occupe à étudier la Torah et à faire des actes de bonté, ou mitpalel imat tzibur, et qui prie avec l'assemblée, ma'ale ani alav, je le considère, ke'ilu peda ani, c'est comme s'il m'avait racheté à moi, li à moi, ulvanai et à mes enfants, mi ben ha'umot ha'olam, des nations du monde. C'est-à-dire qu'en fait, HaKadosh Baruch Hu dit que quiconque fait ces trois choses-là, étudier la Torah, agir des actes de bonté et prier avec la communauté, HaKadosh Baruch Hu le considère comme s'il l'avait racheté, lui et ses enfants, c'est-à-dire le peuple d'Israël, des nations du monde, c'est-à-dire de l'exil. Amar Resh Lakish. Resh Lakish nous dit, Kol mi sheshlo bet haKnesset be'iro, quiconque a une synagogue en ville, dans sa ville, Veno nichasham litpalel, et n'y rentre pas pour prier, nikra shachenra, est appelé un mauvais voisin. Chez Nehemar, comme il est dit, Ko amar Hashem, al kol shchenai araim anogim banachala asher inchalti et ami et Israël. Ainsi a dit Hashem concernant tous mes mauvais voisins qui endommagent l'héritage que j'ai fait hériter à mon peuple Israël. Velod, et pas seulement cela, et la shegorem galut lo olvanav, qu'il entraîne une punition d'exil à lui et à tous ses descendants. Chez Nehemar, comme il est dit, Ineni notcham merad matam. Voici, je les déracine de leur terre, Vet bet Yehuda et Tosh mitocham. Et je déracinerai la maison des Yehuda de parmi eux. Et ce verset-là, c'est la continuation du verset plus haut qui se rapporte à quelqu'un qui ne va pas à la synagogue, qui a une synagogue et qui n'y va pas, dans lequel nous avons vu qu'il est appelé un mauvais voisin. Il est dit que ce mauvais voisin, pas seulement qu'il restera un mauvais voisin, mais il est passible d'une peine d'exil. Amroul et les Rabbi Yochanan, ils lui ont dit à Rabbi Yochanan, Ika sabe be Babel, il y a des personnes âgées en Babel. Tam avait amar, alors il s'est étonné, il a dit, c'est un peu bizarre. Pourquoi? Parce qu'il écrit dans le verset, Le ma'an yerbou yemechem vime benechem, ala adam aktiv. Il écrit, afin que vous prolongiez vos jours et les jours de vos enfants sur la terre, etc. Et ce verset se rapporte sur la terre que Hachem a donnée au Béné Israël. Et de là on apprend, Aval bechutz la'aretz, lo, par contre, à l'extérieur de la terre d'Israël, donc, il n'y a pas apparemment de promesse de longue vie. Donc, comment est-il possible qu'il y ait des personnes âgées en Babel? Alors, Kevan de Amrele, alors, lorsqu'ils lui ont dit, Mekadme ou Mechashrele Beknishta, que ces personnes âgées, ce sont des personnes qui, en fait, viennent tôt et sortent tard de la synagogue, Amar, alors il leur a dit, Aïnou de Aneleou. C'est ça qui leur a permis d'avoir une longue vie. Ainsi comme a dit Rabbi Yoshua ben Levi à ses enfants, à son enfant, c'est-à-dire il lui a donné un conseil, Kadimu vechashichu ve'ailu lebeknishta. Venez tôt et sortez tard en allant à la synagogue. Kiechi de Toruchaim, afin que vous ayez une longue vie. Amar Rabacha Berebi Hanina Maika, Rabacha Berebi de Hanina demande quel verset fait allusion à cela. Asher Adam Shome Ali, le Shaked de la Totaï, Yom Yom. Heureux est l'homme qui m'écoute, qui accourt à mes portes jour après jour, l'ishmor mezuzot petachai, pour garder les linteaux de mes entrées. Oktiv batre, et il écrit juste après cela, ki motzi matzachaim, car celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Donc nous voyons ici que la personne qui accourt à mes portes jour après jour pour garder le linteau de mes entrées, c'est-à-dire il accourt, c'est-à-dire il vient tôt, et il garde les linteaux, c'est-à-dire à la sortie, il reste pour garder les linteaux, c'est-à-dire il sorta. Alors c'est une personne pareille, il écrit car celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Donc nous voyons que celui qui vient tôt à la synagogue et qui sorta, alors celui-là aura une longue vie. Amar Rav Frisa nous dit, Leolam ikanes adam vishne betachim bevet haknesset. Une personne doit toujours rentrer par deux portes à la synagogue. Agma demande, ce n'est pas rien, c'est le cas d'Atar. Peux-tu penser qu'il faut rentrer vraiment par deux portes? Ce n'est pas logique. Et s'il y a une synagogue qui n'a pas de porte, alors comment fait-on? Et là, alors non, il faut dire que l'explication de ce qu'a dit Rav Frisa est comme cela. Shiur shnei petachim ve'achar kach yitpalel, qu'une personne lorsqu'elle rentre à la synagogue, elle doit attendre le temps de traverser deux portes et après commencer à prier. C'est-à-dire, on doit pas rentrer dans la synagogue et tout de suite commencer à prier. On doit rentrer à la synagogue doucement, attendre un petit peu le temps de traverser deux portes et après cela, on commencera à prier. La Gemara apporte maintenant un autre verset qu'elle va expliquer. Alzot yitpalel kol chassid elecha leit metzo. À cet égard, tout homme pieux doit implorer au moment voulu une trouvaille. C'est-à-dire au moment où quelqu'un cherche une trouvaille, au moment où quelqu'un veut une trouvaille, alors il doit prier Hachem. Et la Gemara va expliquer que veut dire lorsqu'on veut une trouvaille. Amar Rabbi Hanina. Rabbi Hanina nous dit, Le'et Metzo, au moment où on veut une trouvaille, Zoïcha, ça fait allusion au moment où on cherche une femme. Chez Neymar, comme il est dit, Matzaïcha, celui qui a trouvé une femme, Matzatov, à trouver le bonheur. Et donc, nous voyons ici le même terme qui est utilisé. Matza et let metzo. Matza isha, il a trouvé une femme, et let metzo, au moment où il cherche une trouvaille. Bema arava, à l'ouest, c'est-à-dire en Eretz Israël, qui nasiv inachiteta, lorsque quelqu'un se mariait, amre leachi, on lui disait comme cela. Matza omotze. On lui posait la question. Matza omotze. Et la Gemara explique tout de suite. Que veut dire matza omotze? Matza, ça fait allusion au verset directif qui est écrit Matza isha, matza tov. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Va y faire Kretson Mehachem et obtient la grâce de Hachem. Ou Motse, ou alors ils lui demandent est-ce que cette femme, elle est plutôt comme Motse. Et Motse, ça fait allusion, dirtiv, ça fait allusion à ce qui est écrit dans un autre verset. Ou Motse animar mi mavet et aisha. Et je trouve plus amer que la mort la femme. Et donc c'était ça, hein, la question qu'on lui posait. Est-ce que cette femme, est-ce qu'elle lui apporte le bonheur ou alors est-ce qu'elle est plus amère que la mort? Ça, c'est maintenant la Gemara revient sur ce que nous avons dit plus haut. Que veut dire l'et metzo au moment où quelqu'un cherche une trouvaille? Rabbi Nathan nous dit l'et metzo au moment où on cherche une trouvaille. Zutora, ça fait allusion à la Torah. Lorsque quelqu'un va étudier la Torah, il doit prier. Chez Nehema, et d'où je sais que l'et metzo, ça veut dire la Torah, qui motzi matzachaim, car celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Et ça parle de la Torah. Donc nous voyons ici le même terme à nouveau qui est utilisé. Motzi matza, celui qui m'a trouvé a trouvé, et plus haut, il est dit l'être metzo au moment où on cherche quelque chose qu'on veut trouver. Rav Nachman Bar Yitzhak nous dit l'être metzo, que veut dire au moment où on cherche une trouvaille? Zomita, ça fait allusion au moment de la mort. Chez Neymar, comme il est dit, la mavet totsaot. Akadosh Baruch Hu a plusieurs chemins vers la mort. Et donc, le mot qui est utilisé aussi, totsaot, a la même racine que metzo, c'est-à-dire trouver. Et donc, en fait, l'explication du verset alors plus haut, c'est que chaque personne doit prier pour avoir une mort facile, une mort douce. Tanina Miachi, nous avons appris aussi comme cela dans une braïta. Techa meot ou shlosha mine mita nivru baolam. Il y a 933 sortes de morts qui ont été créées dans le monde. Chez Neymar, comme il est dit, la mavet otsaot. Akadosh Baruch Hu a plusieurs chemins vers la mort. Et l'Agma nous dit, alors que comment savons-nous d'ici qu'il y a 933 sortes de morts? L'Agma nous dit totsaot, le mot totsaot, begematria de valeur numérique, achiavu, comme cela. C'est-à-dire, le mot Totsaot a une valeur numérique de 933. Et la Gemara maintenant nous explique. Kashish Bekulan Askara. La mort la plus dure d'entre tous, c'est Askara. Et Rashi nous explique dans un autre endroit que que Ascara était une sorte de maladie qui faisait que la gorge se rapetissait jusqu'à entraîner l'étouffement de la personne. Et Nihashe Bekulan, la mort la plus douce, Neshika. Et nous avons l'habitude de traduire cette mort, c'est la mort par baiser. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu embrasse directement, en quelque sorte embrasse directement la personne qui va mourir, et comme cela, il lui prend son âme, et donc ce n'est pas le Malach HaMavet, ce n'est pas l'ange de la mort qui vient tuer, mais c'est directement Akadosh Baruch Hu qui retire l'âme de la personne. Agma nous dit maintenant, va nous expliquer Askara, cette mort de Askara que nous avons expliqué plus haut. Damia ke chizra begevava de amra. Cela ressemble comme ça ressemble comme s'il y avait un bout de ronce qui était embrouillé dans un rouleau de laine, et qu'on retire ce bout de ronce d'un coup sec du rouleau de laine. Et donc c'est pas possible que la ronce sorte intacte, mais c'est sûr qu'elle sortira avec des petits bouts de laine. Et donc la mort par Askara ressemble à cela, c'est-à-dire que la Neshama sort avec beaucoup de difficultés du corps et beaucoup de souffrance. Vekadehamre, et il y en a qui disent que la mort de Askara ressemble à des cordes dans les trous des planches de bois. Et ici, Rashi nous explique que veut dire comme les cordes dans les trous des planches de bois, c'est qu'il y avait certains endroits dans la mer où chaque métaux était attiré vers le fond de la mer. Donc les bateaux qui devaient traverser ces endroits ne pouvaient pas être faits, ne pouvaient pas avoir de métal, car s'il y avait du métal sur ce bateau, automatiquement il était attiré vers le fond de la mer et donc il entraînait le bateau avec lui. Alors les gens qui devaient traverser ces endroits faisaient des bateaux très spéciaux. Ils avaient des planches de bois qu'ils raccrochaient l'une à l'autre par des cordes. Mais maintenant ces cordes étaient faites d'une façon très spéciale, c'est-à-dire que le trou qu'il y avait dans la planche de bois pour faire passer la corde avait le diamètre exact de la corde elle-même. Donc automatiquement, la corde rentrait et sortait de ce trou avec beaucoup de difficultés. Et donc c'est ce que la Gemara nous dit maintenant, que la mort par Askara ressemble à la difficulté qu'il y a à sortir une corde de ces trous-là. Et donc de même que là-bas c'est difficile, de même la mort par Askara est très difficile. La Gemara nous dit, maintenant la Gemara nous dit à quoi ressemble la mort par Neshika, par baiser. Damia, cela ressemble, que Mishral Benita Mechalva, comme quelqu'un qui retire un cheveu d'un verre de lait. Rabbi Yochanan nous dit, et maintenant nous revenons sur ce que nous avons dit plus haut, les et mezzo, au moment où on cherche une trouvaille. Alors à quoi cela fait allusion? Rabbi Yochanan dit un autre avis encore. Les et mezzo, au moment où on cherche une trouvaille, zougvora, ça fait allusion à l'enterrement. C'est-à-dire qu'on doit prier d'avoir un bon enterrement. Amar Rabbi Hanina nous dit, Maïkra, quel verset fait allusion à cela? À Semechim et les Gil, Yassisukim, c'est au Kaver. Ceux qui se réjouissent d'une aubaine se réjouiront lorsqu'ils trouveront la tombe. Amar Rabba Rav Shila nous dit, Haïno de Amritche, c'est ce que les gens ont l'habitude de dire, Libaei Najrachme, les gens doivent demander de la miséricorde, c'est-à-dire ils doivent prier, Afilou même Adibula Batraïta Shelama. Même jusqu'à ce que la dernière motte de terre soit jetée sur sa tombe, il doit prier pour que tout se passe en paix. Marzoutra nous dit, que veut dire l'aid mezzo? Au moment où on cherche une trouvaille, zébet akissé, ça fait allusion à des toilettes. Et bien sûr, il faut expliquer qu'à l'époque de la Gemara, ce n'est pas comme de nos jours où chacun a dans sa maison des toilettes, mais les endroits où on pouvait aller aux toilettes étaient dans des endroits très... c'est-à-dire... c'était des endroits publics. Et il y en avait qui étaient plus proches de certaines personnes, et il y en avait qui étaient plus éloignés. Et donc Marzoutra nous dit que l'aid mezzo, c'est ça qu'on doit prier, que toujours avoir des toilettes à disponibilité. Amré Bemarava, à l'ouest, on disait, c'est-à-dire en Eretzrel, Adé Marzoutra, ce qu'a dit Marzoutra, cette explication qu'a dit Marzoutra au verset l'aid mezzo au moment où on cherche une trouvaille, Adifa Mekoulou, c'est la meilleure de toutes. Et Rashi nous explique pourquoi. Parce qu'en Eretz Israël, étant donné que la terre était pleine d'eau, alors on ne pouvait pas faire des toilettes n'importe où. Donc il fallait s'éloigner beaucoup de la ville pour pouvoir aller aux toilettes. Et donc ce n'était pas quelque chose de facile. C'est pour ça qu'en Eretz-Israël, ils disent que l'explication qu'a donné Marzoutra, qu'il faut prier de toujours avoir des toilettes à disponibilité, c'est la meilleure. Amar le Rava le Rav Rambar Papa. Rava lui a dit à Rav Rambar Papa, « Limalan mar mane mile maliata » que monsieur, que notre maître nous dise quelques bonnes choses de Amar Mishme de Rafrida, que tu as dit au nom de Rafrida, Bemile de Begnishta, à propos des enseignements sur la synagogue. Azamar le Achi Amar Rafrida. Alors Rafram Bar Papa lui a dit, ainsi a dit Rafrida. Maïdirtiv, quelle est l'explication du verset? Oev Hashem Sharet Sion, Mikol Mishkenot Yaakov. Hashem aime les portes de Sion plus que tous les sanctuaires de Jacob. Alors la Gemara nous explique. Oev Hashem Sharim Hametsuyanim Ba'alacha. Hashem aime les endroits qui sont brillants par leur explication de la halacha. Yoter Mibate Knesiot ou Mibate Midrashot. Plus que les synagogues et les salles d'études. Les salles d'études. Veinu de Amar Rabbi Chia Barami Mishme de Oula. Et c'est ce qu'a dit Rabbi Chia Barami au nom de Oula. Miyom Shekharav Bet Amidash. Depuis le jour où le temple a été détruit. En lo la Kadosh Baruch Hu Ba'olamo. Akadosh Baruch Hu n'a dans son monde. Et la arba amot shel halacha bilvad, seulement les quatre amot, c'est-à-dire une mesure de longueur de halacha. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu n'a dans son monde seulement les endroits où on élabore la halacha et on l'étudie le mieux. Alors ça, et ça c'est la chose la plus importante pour Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ce qui est écrit aussi plus haut. Oev Hashem Sharim Hametsuyanim Ba'alacha. Akadosh Baruch Hu aime les endroits qui sont brillants par leur explication de la halacha. C'est-à-dire que là-bas, ils étudient très bien la halacha. Ve'amar Abaye. Et Abaye nous dit, Mere Shava Garisna Bego Beita. Au début, j'avais l'habitude d'étudier dans ma maison, au Matlina Bebek Nishta, et de prier à la synagogue. Kevan de Shamana Lea de Amar Rabbi Chia Barami. Après avoir entendu ce qu'a dit Rabbi Chia Barami, Mishme de Oula, au nom de Oula, Miyom Shecharab Bet Amigdash, depuis le jour où le temple a été détruit, Eno le Akadosh Baruch Hu Ba'olamo, Akadosh Baruch Hu n'a dans son monde, El Arba Amot Shelacha, seulement les quatre amot de Halacha, c'est-à-dire de l'endroit où on étudie l'Halacha Bilvat seulement, Lo Ava Matlina, alors je n'ai prié, El Aecha de Gazina, seulement à l'endroit où j'étudiais. C'est-à-dire que puisqu'à l'endroit où j'étudie, alors c'est un endroit où Akadosh Baruch Hu se manifeste, alors je priais aussi à cet endroit pour que ma prière soit écoutée. Rabbi Ami et Rabbi Asi, Avagad et Avalo, Tlesar Beknishta Betveria, bien qu'ils avaient 13 synagogues à Tveria, Lomatlou, ils ne priaient pas, El Abene Amoudé, Echad Avogarse, seulement entre les poteaux de l'endroit où ils avaient l'habitude d'étudier. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas dans une autre synagogue, mais ils priaient à l'endroit où ils avaient l'habitude d'étudier. Rama Repria Barami Mishme de Oula, et Repria Barami a dit au nom de Oula, Gadol Anene Miyegio, Yoter Miyere Shamaïn. Quelqu'un qui profite de son propre labeur, et bien sûr aussi qui craint le ciel, est plus grand que quelqu'un qui ne fait que craindre le ciel, mais qui ne profite pas de son propre labeur, et c'est-à-dire qu'il profite du labeur des autres. Dès le Gabé Yere Shamaïn, car à propos de quelqu'un qui ne fait que craindre le ciel, il est écrit Ashre Ishere et Hashem, heureux soit l'homme qui craint Dieu. Par contre, à propos de quelqu'un qui profite de son propre labeur, Ktiv il écrit, il dit à Kapecha Kitochal, lorsque tu consommes le labeur de tes mains, Ashrecha Vetov Lecha, tu es digne d'éloge et le bien sera ton partage. Et nous apprenons de là, Ashrecha Baolamaze, tu es digne d'éloge dans ce monde-ci, Vetov Lecha, et le bien sera ton partage, Laolamaba, dans le monde futur. Ou Gabé Yerishamaim, par contre, à propos de quelqu'un qui juste craint le ciel, Vetov Lecha, l'octive, il n'est pas écrit, et le bien sera ton partage, mais juste Ashrecha, que tu es digne d'éloge. Ba'amar Rabbi Chia Barami Mishme de Oula. Et Rabbi Chia Barami a dit au nom de Oula. Le'olam yadur adam bimkom rabo. Un homme doit toujours essayer d'habiter à l'endroit où habite son rav. Et nous l'apprenons de Shekozman Shimi Ben Gera Kayam. Car tout le temps que Shimi Ben Gera était vivant, lo nasa Shlomo et vat Paro. Shlomo Ameler ne s'est pas marié avec la fille de Paro. Et Rashi nous explique que nous apprenons cela de la juxtaposition des versets. C'est-à-dire, juste après la mort de Shimi ben Gera, il est écrit que va être atteint Shlomo et Paro, que Shlomo s'est marié avec la fille de Paro. Et donc nous voyons de là que Shimi ben Gera, qui était le rave de Shlomo Ameler, tant qu'il était vivant, a empêché Shlomo Ameler de se marier avec la fille de Paro, et dès qu'il est mort, et Shlomo s'est oui marié avec la fille de Paro. Donc nous apprenons de là qu'un homme doit toujours essayer de vivre à l'endroit où vit son rave, c'est-à-dire de vivre avec son rave, afin que celui-ci l'empêche de faire des avérotes. Agmar demande Vatania, mais nous avons appris dans une braïta, Aliado, qu'il ne doit pas vivre, un élève ne doit pas vivre à l'endroit où vit son maître. Agmar, Lokacher, ça ce n'est pas difficile. Adekaifle, ça nous parlons dans un cas où il lui est soumis, c'est-à-dire si l'élève est soumis à son maître, alors il doit vivre à l'endroit de son maître. Be'ad elokaifle. Ça, c'est un endroit où il ne lui est pas soumis. C'est-à-dire, si l'élève n'est pas soumis à son maître, alors il ne doit pas vivre dans ce même endroit. Et Rashi nous explique pour quelle raison il ne vaut mieux qu'il ne vive pas dans le même endroit, car s'il vit dans le même endroit que son rave, alors son rave le réprimandera. Et donc, en fait, il fera des averot, il fera des interdits, bémézides, exprès. Donc, il vaut mieux qu'il vive pas dans le même endroit que son rave, que son maître. Et donc, à ce moment-là, personne ne le réprimandera. Et donc, il ne sera choqué. C'est-à-dire, il fera tous ses interdits seulement sans faire exprès. Et donc, il vaut mieux qu'il transgresse des interdits sans faire exprès que les transgresse exprès. Amar Ravuna Bariuda. Ravuna Bariuda a dit, Amar Rav Menachem, qui est au nom de Rav Menachem. Amar Rabami, au nom de Rabami. Maedirtiv. Quelle est l'explication de ce verset? Ve'ozve Hashem yichlu, et ceux qui abandonnent Hashem seront anéantis. Ze amenyar sefer Torah ve'yotze. Ça, c'est celui qui laisse le sefer Torah et il sort. C'est-à-dire, au moment où on est en train de lire la Torah, il laisse le sefer Torah et il sort. C'est-à-dire, il n'écoute pas la lecture de la Torah. Rabbi Abbaou, alors, mais la Gemara nous explique. Rabbi Abbaou, nafik ben gavra le gavra. Rabbi Abbaou sortait entre une personne et une autre personne. C'est-à-dire, entre lorsque deux personnes étaient appelées, entre chaque personne, Rabbi Abbaou sortait. C'est-à-dire qu'entre une personne et une autre, il est permis de sortir. Ben, Rafapa se demande, ben pesuka le pesuka mao. A-t-on le droit de sortir entre un verset et un autre? Et à l'époque de la Gemara, il faut expliquer que chaque verset était traduit. Et donc, Rafapa demande, c'est-à-dire, on ne sort pas au moment où on lit la Torah, mais au moment de la traduction. Est-ce qu'une chose pareille est permise? Manu dit teku. Ça reste sans doute. Nous continuons, Bezrat Hashem, le shiur de Maseret Brachot d'Afret. Nous sommes d'Afret à Moudalef, deux lignes avant la fin. Nous avons cité précédemment le din, la halakha, la loi que nous a dit Ravuna Bar Yehuda, au nom de Rabbi Menachem, au nom de Rabbi Ami, que l'on n'a pas le droit de sortir au milieu de la lecture de la Torah. Par contre, Rabbi Abbaou nous a dit, nous a appris, que c'est seulement au milieu de la lecture qu'on n'a pas le droit de sortir, mais entre une personne qui est appelée à la Torah et une autre personne, on a oui le droit de sortir. La Gemara demande, Baï Rav Papa, Rav Papa se pose la question. Ben pesuka le pesuka mao. A-t-on le droit de sortir entre un verset et un autre? C'est-à-dire qu'à l'époque de la Gemara, lorsqu'on lisait la Torah, il y avait un traducteur qui traduisait chaque verset. Donc ce que demande Rav Papa, c'est est-ce qu'on a le droit de sortir pendant que le traducteur traduit le verset? Ça ne s'appelle pas en fait que l'on abandonne la Torah, mais qu'en fait, on sort au moment de la traduction. Donc ça ne s'appelle pas abandonner la Torah. La Gemara nous dit, teko, cela reste sans doute. Rav Shechet, Lorsque l'assemblée était en train de lire la Torah et que lui avait déjà lu, mais Ader Ape, il retournait sa face, c'est-à-dire il se retournait, Vegaris étudiait. Amar, il a dit, il a expliqué son attitude d'une façon pareille. Anan Bedidan, Veinu Bedidou. Eux sont occupés à leurs affaires et nous, nous sommes occupés à nos affaires. C'est-à-dire qu'en fait, eux lisent la Torah parce qu'eux, ils ont une obligation de lire la Torah. Donc, ils sont occupés à la lecture de la Torah. Et moi qui ai déjà lu la Torah, donc je m'occupe d'étudier. Et donc je n'ai pas besoin d'écouter la lecture de la Torah. Amar Ravuna Bar Yehuda Amar Rabbi Ami. Ravuna, le fils de Rabbi Yehuda, a dit au nom de Rabbi Ami. Leolam Yeshlim Adam Parashiotav Imatibur. Une personne doit toujours finir de lire la paracha en même temps que l'assemblée. Shnaim Mikra Ve'echat Targum. De lire deux fois le texte et une fois la traduction. C'est-à-dire qu'il y a une paracha que nous disons chaque semaine, le Shabbat, que nous lisons le Shabbat matin. Alors Ravuna Bar Yehuda nous dit au nom de Rabbi Ami que chaque semaine, lorsqu'on lit cette paracha, alors chaque personne doit avoir fini de lire cette paracha, d'avoir lu deux fois le texte et une fois la traduction du texte de la Torah. Il y a écrit le Targum, c'est Onkelos qui l'a écrit. Et donc, il faut lire deux fois le texte et une fois cette traduction du texte en araméen.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613
mitzvot. Et même les mots Atarot et Divon, qui sont des mots dans lesquels il n'y a pas de traduction, et donc même lorsqu'ils sont écrits dans leur traduction araméenne, c'est écrit Atarot et Divon, malgré cela, on doit lire deux fois le texte et une fois la traduction. Et la Mishnah et la Gemara. Une fois la traduction, on lui rallonge ses jours et ses années, c'est-à-dire qu'il aura une longue vie. Rabbi Barabai, ça va lâcher minou les parachaïta. Il pensait finir de lire toutes les parachiotes c'est-à-dire toutes les lectures de la Torah, s'il n'a pas eu le temps de lire deux fois le texte et une fois la traduction, alors il pensait les rattraper en quelque sorte, des kulachata, c'est-à-dire de toute l'année, des ma'ale yom et des kippouris, la veille du jour de Kippour. C'est-à-dire Rabbi Bar Abaye pensait rattraper tout ce qu'il n'avait pas eu le temps de faire, tout ce qu'il n'avait pas eu le temps de lire la veille du jour de Kippour. Tan et le Chie Barab Midifti, alors Chie Barab Midifti lui a dit Mraita, si il écrit à propos du Kippour, Ve'initem et Nafshotechem, Betishal Achodesh Ba'erev, et vous vous affligerez le 9 du mois au soir. Alors Gmar demande, Ve'chi Betisha Mitanin, est-ce que c'est le 9 que l'on jeûne? Ve'aloba Asara Mitanin, le jour de jeûne, c'est seulement le 10. Alors pourquoi il est dit le 9? Et là, l'Omar Lecha, ça vient de se dire, de là nous apprenons, Kol Ha'ochel Ve'shote Betchi, quiconque mange et boit le 9, c'est-à-dire le 9 Tishri, Ma'ale Ala Vakatou, le verset le considère Kelo Mitanet Shivati. C'est comme s'il faisait s'il gardait un jour de jeûne et qu'il jeûnait le 9 et le 10 Tishri. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah de manger la veille de Kippour, et quiconque accomplit cette mitzvah de manger la veille de Kippour, c'est comme s'il avait jeûné le 9 et le 10 Tishri. Et donc de là nous voyons que puisqu'il y a une mitzvah de manger et boire ce jour-là, donc on n'aurait apparemment pas le temps de lire toutes les lectures de la Torah que l'on n'a pas eu le temps de dire tout au long de l'année, et de les rattraper ce jour-là, puisque ce jour-là, on doit être occupé à manger et à boire. Donc c'est pour ça que Chia Barav de Difti lui a dit à Rabbi Bar Abaye que ce n'était pas le jour approprié pour rattraper toutes ces lectures de la Torah. Alors, savar l'agdominu. Alors, il a pensé devancer, c'est-à-dire lire à l'avance déjà tous les textes des parashiot, c'est-à-dire des lectures de la Torah à venir, deux fois le texte et une fois la traduction, afin d'être tranquille et d'avoir déjà tout lu à l'avance. Alors, un des anciens lui a dit, Tanina, nous avons appris dans une braïta, Ubilvat shelo yagdim shelo yacher. Tout ce que nous avons dit, que l'on doit lire la lecture de la Torah de la semaine, de lire deux fois le texte et une fois la traduction, alors il ne faut pas ni devancer, c'est-à-dire ni devancer les lectures des semaines à venir et déjà de lire toutes ces lectures cette semaine-là, et ni prendre du retard. C'est-à-dire, par exemple, sauter une semaine et la semaine d'après, lire deux parashiot, deux parties, deux semaines suivies. Ça, c'est interdit. Ainsi que l'a dit Rabbi Yoshua ben Levi l'Ibné à ses enfants, Ashlimu parashotaychu, finissez de lire vos parashiot, c'est-à-dire vos lectures hebdomadaires de la semaine, imatibur, avec l'assemblée, shnai mikra vechatagum, c'est-à-dire de lire deux fois le texte et une fois la traduction, veizaharu bevridin ki Rabbi Yehuda. Et faites attention aux veines en suivant cela, l'opinion de Rabbi Yehuda. Et la Gemara nous explique, dit-nan, parce que nous avons appris dans une Mishnah, à propos de l'abattage rituel des poulets et de toutes les sortes d'oiseaux de cette catégorie. Alors il y a une discussion, est-ce que l'on doit juste couper la trachée artère? Ça c'est suivant l'avis de Rabbanan. Par contre Rabbi Yehuda nous dit, achishot tavidim, jusqu'à qu'il coupe aussi les veines. Il y avait certaines veines dans le cou, il y a une discussion à propos de ces veines, de quelles veines il s'agit exactement, mais il fallait aussi couper ces veines afin de vider le sang de l'oiseau complètement. Et Rashi nous explique pourquoi. Parce que si, pour cachériser, pour rendre cachère de la viande, il faut éliminer complètement le sang qu'elle contient. Et il y a deux façons d'éliminer le sang. Ou de la saler, la salaison, ou de la faire griller. Et en général, de la viande des bêtes, alors on coupait la viande en petits morceaux, et donc c'était possible de la saler ou de la griller, et d'éliminer complètement le sang que contient cette viande. Par contre, dans les oiseaux, l'habitude était de le faire griller entièrement. Et si on fait griller entièrement un oiseau, alors cet oiseau ne se videra pas complètement de son sang. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda nous dit, afin d'être sûr que l'on élimine tout le sang de cet oiseau, alors il fallait couper les veines afin de ces veines qui étaient principales, afin de vider complètement cet oiseau de son sang. Donc c'est ce que a dit Rabbi Yehoshua ben Levi à ses enfants, que dans la shrita, dans l'abattage rituel d'un oiseau. Il faut faire attention à la vie de Rabbi Yehuda et couper aussi les veines afin de vider l'oiseau de son sang. Et Rabbi Yehoshua ben Lévi a dit une troisième chose à ses enfants. Veizaru bezaken sheshachar talmudo mechamat anso. Et faites attention à respecter une personne âgée qui a oublié toute son étude à cause, la traduction littérale bonso, c'est-à-dire un cas de force majeure, mais Rachid nous explique, c'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui a été malade ou quelqu'un qui a dû sortir travailler parce qu'il avait besoin de parnassa, il avait besoin de quoi vivre, et donc il a dû abandonner son étude, et donc il a oublié son étude. Alors Rabbi Yehoshua ben Lévi a dit qu'il faut faire attention à quand même respecter une personne pareille, étant donné qu'elle a déjà étudié. Et d'Amrinan, et nous lui disons pourquoi, parce que l'Uchot, Veshivre l'Uchot, Munachot Baron, ce qui était déposé dans l'Arche Sainte, c'était les Luchot, c'est-à-dire les tables de la loi, Veshivre l'Uchot, et les tables qui ont été cassées. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a reçu une première fois les tables de la loi, ces tables-là ont été cassées, puis il a reçu une seconde fois les tables de la loi. Et comme nous le savons, les tables de la loi ont été déposées dans l'Arche Sainte. Et donc la Gemara nous dit que dans l'Arche Sainte, il n'y avait pas seulement les tables de la loi entières, mais il y avait aussi les tables de la loi cassées. Donc nous voyons que les tables de la loi qui ont été cassées ont la même importance que les tables de la loi entières. Donc Rabbi Yehoshua ben Lévi dit de même que les tables de la loi qui ont été cassées ont la même importance que les tables de la loi entières, il en est de même pour les personnes, c'est-à-dire quelqu'un qui a oublié son étude par quelque chose qui n'est pas de sa faute, alors il est considéré en quelque sorte comme les tables de la loi qui ont été cassées, et donc il a la même valeur que quelqu'un qui a étudié et qui, lui se rappelle de son étude, et donc on doit le respecter de la même façon. De la même façon. Amar le Rava l'Ebne. Rava leur a dit à ses enfants, que Keshatem Chotrim Basar, lorsque vous coupez de la viande, Al Techatru Al Gavayan, ne la coupez pas dans votre main. Alors, Ikade Amre, il y en a qui disent que pour la raison pour laquelle il a dit ça, Mishum Sakana, à cause du danger, car lorsqu'on coupe la viande, Chas de Shalom, on peut couper trop fort et se couper la main aussi. C'est à cause du danger, il leur a dit de faire ça. Mais il y en a qui disent, Mishum Kikul Seuda, car cela peut abîmer le repas. C'est-à-dire, lorsqu'on coupe la viande, si Chas de Shalom, il coupe un peu plus fort, alors il risque de se faire une petite coupure à la main, mais cette petite coupure, il va saigner, et donc ce sang va toucher la viande, et ça va dégoûter toutes les personnes de manger cette viande, étant donné qu'il y a du sang qui a touché cette viande. Et donc, ça va abîmer tout le repas. Donc ça, c'est le premier conseil que Rava a donné. Le deuxième conseil qu'il leur a donné, « Valtejvu almita aramit », ne vous couchez pas et ne vous asseyez pas sur le lit d'une araméenne, et nous allons expliquer pour quelle raison il leur a donné ce conseil. Et ne passez pas derrière la synagogue lorsque l'assemblée est en train de prier, car lorsque vous passez derrière la synagogue, lorsque l'assemblée est en train de prier, quelqu'un qui regarde de l'extérieur peut penser que vous êtes en train, en quelque sorte, de vous enfuir de la synagogue. Alors maintenant, la Gemara revient sur ce qui a été dit plus haut. Ne vous asseyez pas sur le lit d'une araméenne. Alors, Ikadamri, il y en a qui expliquent cette phrase de la façon pareille. L'oteganu belo kriyat shema. N'allez pas vous coucher sans réciter le kriyat shema. Car aller se coucher sans réciter le kriyat shema, ça ressemble à ce que font les araméens. Ils vont aussi dormir sans réciter le kriyat shema. Et donc, Rava leur a dit, récitez le kriyat shema avant d'aller dormir. Et comme nous l'avons déjà vu dans les dapim plus haut, combien il est important de réciter le kriyat shema avant d'aller dormir. Des cas d'amri, il y en a qui donnent l'explication. De l'otensebu giota. Ne vous mariez pas avec une convertie. Veika d'Amré, il y en a qui disent une autre explication sur ce que ce conseil qu'a donné Rava. Aramit Mamash, ne vous asseyez pas sur le lit d'une femme araméenne, vraiment. C'est-à-dire, si une femme araméenne vous propose de vous asseoir sur son lit, ne vous asseyez pas. Et pour quelle raison? Jouma, c'est des Rafapa, à cause de l'histoire qui s'est passée avec Rafapa. Des Rafapa, Azal et Gaba Aramit. Une fois Rafapa a eu besoin d'aller chez une araméenne, pour une raison ou une autre, Otsi Alomita, alors elle lui a sorti un lit. Amralo, et elle lui a dit, chef, assis-toi en attendant que je te donne ce que tu dois recevoir. Amara, elle lui a dit, Eni Yoshev Achitagbi et Amitam. Je ne m'assois pas tant que tu ne lèves pas ce lit. Igbia, elle a levé le lit, et Amita, ce lit, ou Matsu Shamtinokmet. Ils ont trouvé là-bas un enfant qui était mort. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette araméenne voulait faire asseoir Rav Papa sur ce lit. Et en quelque sorte, après, dire que c'est Rav Papa qui a entraîné la mort de cet enfant. Donc, alors, à cause de cette histoire-là, Rava a dit, Umikan Amru Chachamim, pas seulement Rava, mais disciples, nos sages nous ont dit, Asur Lishev Al Mita Arami. Il est interdit de s'asseoir sur le lit d'une femme araméenne. Et à cause de cette histoire de Rava, car nous craignons qu'elle cache un enfant là-bas et qu'elle veuille faire porter la cause de la mort de cet enfant à la personne qui s'est assise sur ce lit. Bien sûr, il faut expliquer qu'à l'époque que la Gemara parle, l'habitude était de s'asseoir sur des lits. C'est-à-dire, nous parlons de l'époque de la Gemara, il n'y avait pas des chaises comme nous avons de nos jours, mais il y avait des lits, et chaque personne, les gens, lorsqu'ils voulaient s'asseoir, ils s'asseyaient sur des lits. Et donc, c'est pour ça qu'ici nous parlons de s'asseoir sur un lit, et donc en fait l'intention elle est sur un lit sur lequel on s'assoit, et bien sûr pas un lit sur lequel on dort, d'après cette dernière explication. Maintenant, la Gemara revient sur le dernier conseil qu'a donné Rava à ses enfants. Ve'al ta'avru achore bet ha'knesset b'sha'ah sh'atzibur mitpalelin. Et ne passez pas derrière une synagogue au moment où l'assemblée est en train de prier, comme nous avons expliqué plus haut au nom de Rashi, car ça donne l'impression que vous enfuyez de la prière. Alors, mais ça y est, allez, les Rabbi Yoshua ben Levi, ça aide et ça apporte une preuve à ce qu'a dit Rabbi Yoshua ben Levi. D'amar Rabbi Yoshua ben Levi, car Rabbi Yoshua ben Levi a dit, Assur lo lo adam, she'avor achore bet ha'knesset b'sha'ah sh'atzibur mitpalelin. Il est interdit à un homme de passer derrière la synagogue au moment où l'assemblée est en train de prier. Amar Abaye nous dit, et Abaye va nous dire qu'en fait, cette loi-là est vraie, mais elle ne s'applique pas dans tous les cas. Velo amra aneda delei kapitra achina. Et nous avons dit que cette loi s'applique seulement dans un cas où il n'y a pas d'autre porte. Avali kapitra achina. Mais s'il y a une autre porte, l'etlanba, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que la personne qui le voit se dit, non, c'est la personne, c'est vrai qu'elle ne rentrera pas par cette porte, mais elle va rentrer par l'autre porte. Donc ce n'est pas grave. Velo amra aneda delei kapitra achina. Et aussi, nous n'avons pas dit cette loi seulement dans un cas où il n'y a pas d'autre synagogue dans la ville. Avalika beknishtach, mais s'il y a une autre synagogue, l'etlanba, ce n'est pas grave, car une personne qui la voit ne se dit pas que cette personne s'enfuit de la synagogue, mais il se dit, il va aller à l'autre synagogue. Velo amran et la delodaretuna. Et nous n'avons dit aussi cette loi-là seulement s'il ne porte pas un fardeau. Velo raït, où il ne court pas. Velo malasfilin, où il n'a pas les filines sur lui. Avalika khad me'anach, mais s'il a une de ces trois choses que nous avons citées, c'est-à-dire soit qu'il est en train de porter un fardeau, soit qu'il est en train de courir, soit qu'il a les téfilines sur lui, l'etlanba, ce n'est pas grave. Et Rashi nous explique pourquoi. Que s'il est en train de porter un fardeau, alors tout le monde voit que ce n'est pas une personne qui en fait qui s'enfuit de la prière. Lui, pour l'instant, il est occupé, il est en train de porter son fardeau. Donc puisqu'il est en train de porter son fardeau, il ne peut pas prier. Et la deuxième chose que nous avons dit, c'est qu'il n'est pas en train de courir. C'est-à-dire, s'il est en train de courir, alors le fait qu'il court, ça prouve qu'il est très pressé et qu'il a quelque chose à faire. Donc en fait, ce n'est pas parce qu'il est en train de s'enfuir de la prière qu'il n'est pas rentré à la synagogue, mais tout simplement parce qu'il est en train de faire quelque chose. Mais l'homme a la tefiline, et pas qu'il a la tefiline, car en fait, s'il a la tefiline, il montre explicitement que pour lui, la prière est importante. Donc en fait, s'il a la tefiline sur lui, nous ne pouvons pas dire que cette personne est en train de s'enfuir de la prière, puisque nous voyons que lui, il a la tefiline sur lui, ça veut dire que pour lui, c'est oui important. Tanya, nous avons en présence une braïta. Amar Rabbi Akiva, Rabbi Akiva nous dit, Bishlosha dvari moev ani et amadein. Il y a trois choses dans lesquelles j'aime les façons de se conduire du peuple de Madaï. Kshechotrim et Abassar, lorsqu'ils coupent la viande, et Kshechotrim et l'Algabe Shulchan. Ils ne la coupent seulement sur une table. Kshenoshkim, et lorsqu'ils embrassent quelqu'un, et Noshkin et l'Algavayad. Ils ne l'embrassent seulement sur le dos de la main. C'est-à-dire que Rachid nous explique que lorsqu'on embrasse sur la joue, ça pourrait laisser des traces de salive, chose qui est dégoûtante. Donc c'est pour ça qu'on embrasse sur le dos de la main. Okshayotin, et lorsqu'il donne des conseils, Enyotim et l'Abesade. Il ne donne des conseils seulement lorsqu'il se trouve dans le champ. Et Rashi nous explique pourquoi. Parce que, comme les gens ont l'habitude de dire, les murs ont des oreilles. Oznaim lakotel, les murs ont des oreilles. Et donc, c'est pour ça que si on se trouve dans une maison, on ne peut jamais savoir si quelqu'un se trouve dans cette maison, si quelqu'un ne se trouve pas dans cette maison, si quelqu'un qui se trouve de l'autre côté du mur entend ou n'entend pas ce qui se passe, etc. Donc, c'est pour ça qu'ils préfèrent, lorsqu'ils veulent donner un conseil, ils le donnent dans le champ, éloigné de tout le monde, et sûr que personne n'entend ce conseil. Amaravada Barava, Ravada Barava nous dit, Maïkra, quel verset fait allusion à cela? Vaishlach Yaakov, et Yaakov a envoyé, Vaikra le Rachel ou Léa. Et il a appelé Rachel et Léa à Sadé El Tsono, dans le champ, là où il était en train de garder les bêtes. Et donc nous voyons ici que Yaakov, lorsqu'il a voulu parler à Rachel et Léa, il ne leur a pas parlé lorsqu'il était chez lui à la maison, mais il les a appelés et il leur a parlé lorsqu'il était dans le champ, justement pour que personne ne puisse faire passer la rumeur que Yaakov veut s'enfuir de la maison de Laban. Tania, nous avons appris dans une braïta. Amar Rabban Gamliel. Rabban Gamliel nous dit, Bishlosha Dvarim, Oev Ani Et HaParsim. Il y a trois choses que j'aime chez le peuple perse. Hen Tsnouim Be'Achilatam. Ils sont discrets dans leur façon de manger. Vetsnouim Be'Bet Akissé. Ils sont discrets dans leur façon d'aller aux toilettes. Vetsnouim Be'Davar Acher. Et ils sont discrets sur autre chose. Et Rashi nous explique, c'est-à-dire sur quoi autre chose? Lorsqu'ils ont des relations intimes. Maintenant, la Gemara rapporte un verset à propos des Perses. Ani tziveti le mekudashai, j'ai ordonné à mes hommes réservés. C'est un verset qui Rashi nous explique lorsque le royaume de Babel est tombé. Alors il est écrit dans un verset qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné au roi de Perse et de Madaï de venir et de détruire ce royaume de Babel. Et il est dit donc dans ce verset, j'ai ordonné à mes hommes réservés. Et les hommes réservés, ce sont en fait les rois de Perse et de Madaï. Il leur a ordonné donc à Kadosh Baruch Hu d'aller détruire Babel. Alors Tané Rabbi Yosef nous dit, que veut dire qu'ils sont réservés? Elo Aparsim, ce sont ici les Perses, Amekudashim ou Mezumanim les Geinom, qui sont réservés et prêts pour le Geinom. La Gemara rapporte maintenant un extrait de la Mishnah. Rabban Gamliel nous dit, Vekroulé, etc. C'est-à-dire que dans la Mishnah, il dit que Rabban Gamliel nous dit que nous avons le droit de réciter le Kriyat Shema du soir jusqu'au matin. Et non pas jusqu'à minuit ou jusqu'au tiers de la nuit, comme suivant l'opinion de Rabbi Lézer. Alors, Rabbi Yuda a dit au nom de Shmuel, Alacha ki Rabban Gamliel. La Alacha est fixée suivant l'opinion de Rabban Gamliel. Tanya, nous avons appris dans une braïta, Rabbi Shimon ben Yochai nous dit, Pe'amim shadam kore Kriyat Shema shte pe'amim belaïla. Il arrive qu'une personne récite le Kriyat Shema deux fois dans la même nuit, Belaïla Chat, dans une même nuit, Kodem Shi'ale Amud HaShachar, avant que le jour ne se lève, Ve'achat Le'achar Shi'ale Amud HaShachar, et une fois après que le jour se lève, Ve'yote Ben Yedechovato, et avec ça ils seront quittes, Achat Shel Yom, d'une fois d'avoir récité le Kriyat Shema du jour, Ve'achat Shel Lala, et une fois d'avoir récité le Kriyat Shema de la nuit. C'est-à-dire que lorsque il récite deux fois le Kriyat Shema, une fois avant le lever du jour, alors avec cette fois-là, il se rend quitte du Kriyat Shema, de réciter le Kriyat Shema de la nuit, et une fois après le lever du jour, avec cela, il se rend quitte d'avoir récité le Kriyat Shema du jour. Alors la Gemara demande, Hagufa Kasha, cela justement c'est difficile. Amart, tu as dit toi-même, Pamim Shadam Kore Kriyat Shema, Shte Pamim Belaila. Il arrive des fois qu'un homme récite le Kriyat Shema deux fois la même nuit. Alma, donc, l'achar shi'ale amud ha-shachar, après que le jour se soit levé, mais avant que le soleil se soit levé, c'est-à-dire que le jour se passe de la façon comme, de cette façon-là. D'abord, il fait nuit complètement, puis après le jour se lève, puis après le soleil se lève, c'est-à-dire il fait toujours un peu jour avant le lever du soleil. Et il y a une discussion à propos de ce moment-là, qui est entre le lever du jour et le lever du soleil, est-ce qu'il est appelé encore jour ou appelé encore nuit? Alors l'Agma demande, donc d'après ce que toi tu m'as dit, ici tu as dit qu'il récite deux fois le Kriyat Shema au moment de la nuit. Donc ça veut dire que la Khar She'aleh Amud HaShachar, après que le jour se lève, Leilaou, c'est appelé encore nuit, jusqu'au lever du soleil. Ve'adartane, et après cela tu as dit, Yotze Ba'im Yedechovato, il se rend quitte en récitant ces deux fois le Kriyat Shema, Achat Shel Yom, Achat Shel Laila. Une fois pour à propos de l'obligation de lire le Kriyat Shema du jour, et une fois à propos de l'obligation de lire le Kriyat Shema de la nuit. Alma, donc nous voyons d'ici que puisqu'il se rend quitte en récitant le Kriyat Shema après le lever du jour, il se rend quitte de l'obligation de lire le Kriyat Shema du jour, Yemamaou. Donc ça veut dire que après le lever du jour, c'est considéré comme étant la journée. Alors comment, c'est une contradiction dans tes propres dires? La Gemara répond là, non, Leolam Leileu. C'est vrai qu'en fait, c'est appelé la nuit. C'est-à-dire, même après le lever du jour, c'est appelé la nuit. Alors, si c'est ainsi, pour quelles raisons ils seront quittes de l'obligation de réciter le Kriyat Shema du jour? Ben, décaré Leyom, mais la raison pour laquelle ça a été appelé jour, c'est-à-dire qu'ils seront quittes de l'obligation de réciter le Kriyat Shema le journée. Car il y a des gens qui se lèvent à cette heure-ci. Et Rashi nous explique que l'obligation de réciter le Kriyat Shema est Beshor Vecha, en se couchant, ou Vekomecha, en se levant. Et donc, nous avons appris qu'en généralement, Vekomecha, en se levant, c'est en journée. Mais puisqu'il y a des gens qui se lèvent plus tôt que le moment qui est appelé jour, c'est-à-dire au moment du lever du jour, et qui est appelé suivant l'agma, encore nuit. Alors, puisqu'il y a des gens qui se lèvent à cette heure-là, alors c'est considéré, point de vue, l'obligation de réciter le Kriyat Shema. C'est, oui, considéré comme étant jour. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on récite le Kriyat Shema à cette heure-ci, c'est considéré qu'on a rempli son obligation de réciter le Kriyat Shema de la journée. Amar Rabbi Chabachanina, dit Amar Rabbi Shabin Levi, au nom de Rabbi Shabin Levi, Alakha ki Rabbi Shimon Bar Yochai. La Alakha est fixée, c'est comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Ika de matne lea de Rabbachanina. Il y en a qui disent, et qui disent que ce qu'a dit Rabbi Chabachanina, Had Tanya, sur une autre chose que nous avons appris dans une braïta. Des Tanya, ce que nous avons appris dans une braïta, Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, Mishum Rabbi Akiva, au nom de Rabbi Akiva. Il arrive que l'une personne récite le Kriyat Shema deux fois dans la même journée, dans la même journée. Une fois Kodem la Netzachama, une fois avant le lever du soleil, et une fois après le lever du soleil. C'est-à-dire une fois avant le lever du soleil, c'est-à-dire après le lever du jour, mais avant le lever du soleil. Et la seconde fois, il le récite après le lever du soleil. Et ils seront quittes par cela, d'avoir des deux obligations, l'obligation de réciter le Kriyat Shema en journée et l'obligation de réciter le Kriyat Shema la nuit. Ragma demande à Goufa Kasha, ce sera justement ces contradictoires. Tu as dit qu'il arrive des fois que quelqu'un récite le Kriyat Shema deux fois la même journée. Alma, donc de là je vois. Le cas que tu as dit qu'il récite avant le lever du soleil, Yemamaou, c'est considéré comme étant une journée, puisque tu as dit récite deux fois la même journée. Ve'adartan, et après tu as dit, Yotzebaim Yedechovato, que lorsqu'il récite le Kriyat Shema, une fois avant le lever du soleil, une fois après le lever du soleil, alors il se rend quitte par cela de l'obligation de lire le Kriyat Shema chez l'homme en journée, d'achat chez laïla, et de l'obligation de lire le Kriyat Shema de la nuit, c'est-à-dire qu'avant le lever du soleil est considéré comme étant la nuit, et donc par cela il se rend quitte de son obligation de lire le Kriyat Shema la nuit. Alma, donc nous voyons d'ici, laïlaou, qu'avant le lever du soleil c'est considéré comme étant la nuit. Puisqu'en lisant en récitant le Kriyat Shema avant le lever du soleil, il se rend quitte de son obligation de réciter le Kriyat Shema de nuit.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.